Vous voulez écouter?
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Dans notre série de cette semaine, qui porte sur le thème de l'intériorité, voici le deuxième épisode. Le corps est-il la frontière entre le dedans et le dehors ? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Gainsbourg. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été journaliste à Libération au moment de sa création, de 1973 à 1975. Puis, vous avez exercé le métier de sage-femme, dans un premier temps à l'hôpital public, puis en libéral, pendant 30 ans à Paris. Vous avez ensuite repris des études de philosophie et vos recherches ont donné lieu à un livre publié en 2014 aux éditions Hermann, qui s'intitule « Naître mère, essai philosophique d'une sage-femme ». Avec nous aussi Dorothée Legrand, bonjour. Vous êtes chercheuse en philosophie aux archives Husserl, le laboratoire du CNRS hébergé à l'École Normale Supérieure. Vous êtes aussi psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous avez publié aux éditions Hermann « Écrire l'absence au bord de la nuit ». Enfin, voici Nathalie Deprat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur des universités à l'Université de Rouen, Normandie. Vous êtes une spécialiste du philosophe allemand Edmund Husserl, du début du XXe siècle, et puis de plusieurs lignes partant de lui et constituant le courant qu'on appelle la phénoménologie, en particulier l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty, dont nous allons beaucoup parler. Vous avez publié, Nathalie Deprat, publier notamment une traduction de Husserl d'un texte qui s'appelle « Phénoménologie des émotions » qui va paraître cette année. Alors pour commencer cette conversation sur l'intériorité et le corps, eh bien voici une réflexion de Merleau-Ponty à propos de Descartes. C'est une archive de l'ORTF.
Descartes détourne de l'extérieur et ne parvient à se définir clairement qu'en découvrant en lui-même un esprit, c'est-à-dire un genre d'être qui n'occupe aucun espace, qui ne se répand pas dans les choses et n'est rien d'autre que la pure connaissance de lui-même. On parvenait ainsi à une notion pure de l'esprit et à une notion pure de la matière ou des choses. Mais il est clair que cet esprit tout pur, je ne le trouve et pour ainsi dire ne le touche qu'en moi-même. Les autres hommes ne sont jamais pour moi pur esprit. Je ne les connais qu'à travers leurs regards, leurs gestes, leurs paroles, en un mot à travers leur corps. Je ne saurais dissocier quelqu'un de sa silhouette, de son ton, de son accent.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Merleau-Ponty, philosophe français du XXe siècle, nous dit dans cette archive que nous avons entendue que c'en est fini de la distinction du corps et de l'esprit, qui pour Descartes constituait deux substances différentes quoique unies. Est-ce que ça veut dire, Nathalie Deprat, que pour la philosophie contemporaine, eh bien l'intériorité c'est un domaine constitué tout autant de pensées que de sensations corporelles diverses, domaine qui au fond serait délimité par le corps et même encore plus précisément par la peau qui recouvre ce corps.
Question redoutable. Il y a effectivement dans la phénoménologie une critique de Descartes que restitue très bien Merleau-Ponty en insistant sur les gestes, la silhouette d'autrui qui est la perception qu'on a immédiatement de lui, avant de la possibilité même de saisir ce qu'il y a dans sa tête. En réalité, dans la relation à autrui, finalement, on a d'abord une perception de ce qu'il nous montre, ce qu'il manifeste dans sa corporéité, avant d'atteindre quoi que ce soit de son esprit, qui va de toute façon être médié par ce dont on perçoit. Donc la phénoménologie, c'est vrai, va mettre l'accent sur le corps comme étant, chez Merleau-Ponty en tout cas, une sorte de signification incarnée de ce qui se passe dans la tête d'autrui.
Et donc, pour nous-mêmes, au fond, voilà, nos borboriques, nos glouglous internes, c'est aussi de l'intériorité, au même titre que nos pensées les plus abstraites.
Tout à fait. Alors, dans la perspective, par exemple, de Husserl, effectivement, la relation à soi est une relation qui est d'emblée incarnée, qui est d'emblée lestée de dimensions sensibles, de dimensions qui peuvent être internes mais aussi externes en fait, qui correspondent aussi à des façons de nous rapporter à l'extériorité. Mais en fait, il y a un lien entre les deux. Il y a toujours une une, comme dit Husserl, une intentionnalité, c'est-à-dire une, un rapport de l'intérieur à l'extérieur.
Et il y a cette limite qui, effectivement, on va un petit peu l'interroger, hein, cette limite,
a-t-elle
des porosités, etc. Mais c'est une frontière, mon corps délimité par ma peau et dehors le corps de l'autre délimité par sa peau.
Tout à fait. Husserl dit qu'on ne peut pas se mettre à la place de l'autre complètement, physiquement. Mm. Je ne peux pas sortir de moi complètement et occuper la place d'autrui. Dans l'espace, on a chacun notre place.
Alors, Dorothée Legrand, vous qui êtes psychanalyste, eh bien, on vous a fait un petit cadeau sur le fait que l'inconscient, mais pas que l'inconscient, d'ailleurs, même la conscience, l'ensemble des choses qui se disent sur le divan d'un analyste constituent finalement une parole du corps et pas d'un esprit désincorporé. Voici Jacques Lacan.
L'inconscient, ça parle. Ce qu'il fait dépendre du langage. L'âme, c'est une supposition aussi. Supposition de la somme des fonctions du corps. En quoi c'est une supposition bien plus problématique que celle de l'inconscient. Néanmoins, supposons-la. Alors, je dis que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. En quoi cette fois, je contredis Aristote. L'homme ne pense pas avec son âme, comme il l'imagine, le philosophe.
C'était Jacques Lacan dans une série documentaire « Un certain regard » de 1974, ORTF bien sûr. Dorothée Legrand, c'est un peu surprenant comment Lacan ici ressuscite en fait la notion d'âme, distincte du corps, mais pour mieux la détruire ensuite et dire qu'elle est une émanation du corps, qu'en fait il n'y a pas de distinction possible et surtout pas pour un psychanalyste.
Merci beaucoup pour le cadeau.
Ça vous a plu donc.
On ne comprend pas tout, mais vous allez nous aider.
Mais ça me touche beaucoup parce que d'entendre sa voix, on entend qu'il parle avec son corps, en tout cas c'est comme ça que je l'entends, qu'il y engage l'entièreté de son corps dans sa parole. Et parler avec son corps, c'est une des choses qu'il va enseigner au titre de la psychanalyse, y compris jusqu'à la fin de son enseignement. Je parle avec mon corps, et ce, sans le savoir. Et il y a vraiment cette image du psychanalyste, et surtout du psychanalyste lacanien, qui serait, je dirais, perché dans les mots, comme si la parole n'était pas incarnée, comme si tout à coup, puisque le patient parfois s'allonge sur un divan, alors il n'a plus de corps, ce qui est une idée, une intuition très très étrange, parce que c'est un autre corps qui va pouvoir émerger là, sur une autre scène, une scène onirique, une scène du langage, et c'est un corps parlant, dira Lacan également, et ce corps parlant va venir compliquer considérablement la division entre l'âme et le corps, entre le corps et l'esprit. On a un par-l'être, dit-il encore, et ce corps parlant va venir travailler la limite, non pas l'effacer ni la détruire, bien au contraire, on assume qu'il y a une limite infranchissable, et pourtant, cette limite infranchissable va pouvoir être franchie par la grâce de la parole, je dirais, mais là j'emprunte cet infranchissable, j'emprunte plutôt à Derrida, mais il y a des liens là entre, pardon, je mais mélange un peu tout, mais
bien,
je mélange un
ça,
peu tout avec
les liens.
Lacan et Derrida.
Donc Lacan dit, on peut supposer l'âme, comme si c'était une idée au fond, qui ne nous quittait pas vraiment, mais précisément ce qu'on apprend, peut-être pas d'ailleurs seulement dans les séances de psychanalyse, c'est que le langage qui nous paraît être une chose venant de l'âme ou de l'esprit, en réalité, est produit par ce qu'il appelle dans cet extrait les fonctions du corps. Mmh. C'est ça ?
C'est L'acte de langage est un acte corporel, il n'y a pas de disjonction possible. Mm-hmm. En revanche, je dirais que tout acte corporel n'est pas un acte de langage, que tout acte de langage est un acte corporel, oui. Plutôt le dire comme ça. Donc c'est vraiment, c'est pas que le corps va causer le langage, c'est que le corps cause du verbe parler, quoi. Ça cause, ça parle. Mm-hmm. Le corps, ça parle. D'emblée, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas cette disjonction entre on aurait un corps et puis il se mettrait à parler. Comme accidentellement, secondairement. C'est un corps parlant. Parlant, c'est-à-dire en train de parler.
Hélène de Gainsbourg, une femme enceinte, parle son corps, même quand elle n'est pas consciente de parler de sa grossesse. Elle en parle plus qu'elle n'en est consciente.
Déjà, il est très difficile pour les femmes enceintes de parler. C'est assez récemment qu'elles ont pu prendre la parole. En fait, elle parlait dans un monde assez clos, qui est le monde des femmes. Elle parlait à leurs amis, leurs mères, leurs sœurs, éventuellement leurs sages-femmes.
Quand ça ?
Jusqu'à assez récemment, on va dire, peut-être jusque dans les années 60-70. Elles étaient quand même les femmes très enfermées, très contingentées dans la sphère privée, dans la sphère féminine, dans la sphère du foyer.
Où ça s'exprimait quand même. Il y avait une parole où ça de la grossesse
singulière. Entre femmes. Et elles n'avaient qu'assez peu d'occasions de l'exprimer ouvertement. Effectivement, moi j'ai commencé, si vous voulez, à m'intéresser à cette profession de sage-femme et à m'y engager un peu après les révolutions féministes des années 70, où là, effectivement, on va pas dire le corps ça parle, mais où les femmes ont commencé à exprimer des revendications très puissantes au niveau de leur corps féminin. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'était effectivement pour avoir accès, pour avoir le droit d'avoir accès au contrôle de leur fécondité, ce qu'elles ont obtenu. En partie, en tout cas en Occident.
Alors, on vient de parler du corps comme limite de notre intériorité, en particulier, même si cette intériorité peut accueillir un autre corps en train de croître, ce qui est le cas de la grossesse. Maintenant, on va complexifier un peu cette histoire, parce que il y a plusieurs problèmes avec cette limite, cette frontière. Le corps, par exemple, si je mets ma main droite sur ma main gauche, je sens dans ma main droite ma main gauche comme si c'était quelqu'un d'autre qui posait sa main sur cette main gauche, mais je sens dans ma main droite mon corps de l'extérieur, en quelque sorte. C'est comme si une partie de mon corps s'était mise à l'extérieur, pour saisir une autre partie. C'est troublant et ça a beaucoup troublé Husserl, mais aussi Merleau-Ponty. On écoute un extrait du Visible et de l'Invisible de Merleau-Ponty, livre de 1964, lu par Aïda Ndiaye.
En même temps que senti du dedans, ma main est aussi accessible du dehors. Tangible elle-même, par exemple, pour mon autre main, si elle prend place parmi les choses qu'elle touche, est en un sens l'une d'elles, ouvre enfin sur un être tangible dont elle fait aussi partie. Par ce recroisement en elle du touchant et du tangible, ses mouvements propres s'incorporent à l'univers qu'ils interrogent, sont reportés sur la même carte que lui. Les deux systèmes s'appliquent l'un sur l'autre, comme les deux moitiés d'une orange.
Nathalie Deprat, j'aimerais que vous nous commentiez ce texte à la fois célèbre et difficile.
Alors, commentaire, ça va être un peu compliqué dans l'espace-temps dont je dispose.
Oui, mais vous voyez, vous faites ça très bien.
Mais non, je vais relever quelques termes qui sont particulièrement frappants.
Des clés.
Quand Merleau-Ponty parle de recroisement du touchant et du tangible, alors on voit très bien l'expérience de la main, c'est une expérience très quotidienne en fait. On pose une main l'une sur l'autre très couramment, même sans s'en rendre compte. Et c'est vrai qu'il y a ce processus où on va, en posant sa main sur l'autre main, on peut le faire en même temps, je le fais là en ce moment même, on sent justement que la main offre une résistance, la main qu'on touche, qui est touchée, donc offre une résistance, et la main qui touche exerce une pression. Mais on a aussi le phénomène de l'activité qui émerge de la main touchée, qui va justement réagir en fait, et la main touchante peut à nouveau être en position passive. Donc on a une alternance passif-actif, et on pourrait dire que c'est un petit peu ça que décrit Merleau-Ponty quand il parle de recroisement. Après, il parle des deux systèmes qui s'appliquent l'un sur l'autre, donc ça correspond peut-être plus à quand on joint les deux mains.
Oui.
Parce que là, on est vraiment, quand on joint les deux mains sont...
extérieures l'une à l'autre.
Extérieures l'une à l'autre.
Il y a un dehors pour chacune.
Et collées l'une à l'autre, oui, en même temps. Donc, il y a ce double mouvement à la fois de collage et de distinction. Mm. Et Merleau-Ponty décrit vraiment avec beaucoup de... Enfin, c'est vraiment une qualité d'écriture aussi, Merleau-Ponty. Donc, il décrit avec beaucoup de précision et de qualité, justement, ces mouvements très fins, ces processus très fins, qui sont multiples d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. Poser la main l'une sur l'autre... ou joindre la main, joindre les deux mains, c'est pas tout à fait la même chose. Même si ça décrit bien les deux, à la fois coexistence et en même temps respect de la délimitation.
Oui, et en même temps, dans cet extrait, lorsqu'il parle du fait qu'on s'incorpore à l'univers, il semble vouloir dire, et peut-être dans d'autres passages c'est encore plus clair, que certes nous sommes quelque chose de limité, de fini par notre corps dans le domaine du sensible, mais en même temps nous participons de ce domaine, nous sommes en, comment dire, nous en faisons partie, nous ne sommes pas totalement séparés de l'ensemble du sensible, d'ailleurs nous pouvons être sentis nous-mêmes par notre propre corps, ainsi par cette main droite qui sentirait la main gauche. Donc il y a une espèce de plongée dans un univers où nous sommes tous ensemble.
Tout à fait. Chez Merleau-Ponty, ça c'est beaucoup plus vrai que chez Husserl, où on a plus cette relation entre deux sujets ou deux personnes, enfin les deux mains, enfin en l'occurrence. Mais chez Merleau-Ponty, il y a cette immersion. C'est vrai dans le monde, en fait, ce qu'il appelle le monde ou la nature qui nous contient et dans lequel en même temps on est, on plonge en réalité. Donc c'est vrai qu'il y a un effet de participation ou d'appartenance à une réalité qui nous dépasse et à laquelle on co-participe. Donc ça, c'est très, très intéressant, effectivement. C'est très propre à Merleau-Ponty.
Dorothée Legrand.
Oui, je me disais que c'était intéressant aussi, très en lien avec ce que tu viens de dire, Nathalie. Merleau-Ponty va parler, par rapport à cette immersion, de germe de dépersonnalisation. Ça peut aller jusque-là, cette immersion. Et je pense qu'on peut y entendre, au moins après coup, que la limite sur laquelle vous insistez est importante justement pour ne pas aller au-delà du germe de dépersonnalisation. Donc que cette immersion ne soit pas une dissolution. Merleau-Ponty va aussi beaucoup insister sur la relation entre soi et autrui, par le corps, par justement cette intercorporéité dont il parle beaucoup. Et il va pouvoir dire « l'autre est un bourgeonnement de moi-même ». Mais on entend à quel point cette métaphore peut être très compliquée si l'autre n'est que un bourgeonnement de moi-même. Alors que reste-t-il de son altérité? Que reste-t-il de la limite infranchissable entre moi et l'autre? Et Merleau-Ponty est toujours en train de jouer, disons, entre une limite qu'il complexifie à un tel degré que ça va jusqu'à l'immersion. L'immersion, parfois... tend vers la dissolution et la fusion.
France Culture, avec Philosophie, Géraldine Mulman.
Le corps est-il la frontière entre le dedans et le dehors? Nous parlons de cela ce matin avec Hélène de Gainsbourg, Dorothée Legrand et Nathalie Depraz. Et Dorothée Legrand vient de commenter cette extraordinaire expression de Merleau-Ponty, l'autre est un bourgeonnement de moi-même et en même temps le danger que dans ce monde du sensible qui nous est commun, où nous pouvons nous sentir fusionnés, on écrase l'altérité d'autrui. C'était magnifique ce que vous venez de dire. Alors il y a un autre problème avec cette frontière qu'est le corps et qui est en fait une frontière incroyablement poreuse, voire plastique. Bien sûr, c'est la spécificité du corps féminin qui est incroyablement ouvert. Et il y a des sages-femmes qui disent que parfois les femmes ne savent pas à quel point elles sont ouvertes avant d'accoucher. Et au passage, elles l'apprennent, mais l'apprennent aussi tous ceux qui les accompagnent, qui assistent à un accouchement. Il y a quelque chose de stupéfiant. Le fait de voir à quel point oui, le corps féminin peut s'ouvrir à l'extérieur d'une manière que dans le quotidien, nous n'avons pas en tête.
C'est une expérience particulièrement liée à la féminité. Peut-être qu'on l'a déjà avant d'être enceinte et avant d'accoucher, parce que les femmes ont leurs règles déjà. Elles perdent du sang chaque mois, enfin dès l'adolescence, et leur corps se transforme. Elles ont des signes de modification corporelle très évidents. Et je pense que toutes les femmes font cette expérience. Mais il est vrai qu'au moment de la grossesse, où le corps se transforme à toute vitesse, et au moment de l'accouchement, où le corps s'ouvre pour donner passage à un autre, puisque nous parlons d'altérité, mais qui n'est pas encore pour la femme qui accouche, qui n'est pas encore vraiment un autre, qui est peut-être un autre, et c'est important pour ceux qui vont l'accueillir, ou celles qui vont l'accueillir, mais pour la femme qui le met au monde, et dans les premiers mois d'ailleurs ça continue, ce n'est pas encore véritablement un autre, elle doit le découvrir. C'est pour ça l'histoire du bourgeonnement de moi-même,
oui.
J'y ai pensé par rapport aux femmes enceintes et surtout au moment de l'accouchement. Qu'est-ce que c'est qu'une grossesse? C'est à la fois soi et un autre qui est en train de se créer à l'intérieur de soi et qui n'est pas soi.
Et qui n'est pas forcément facile de considérer tout de suite comme un autre.
Et qui est
parfois,
très, très
on le voit comme un prolongement de soi.
C'est une épreuve que les femmes doivent surmonter. C'est pourquoi moi, j'avais évoqué la nécessité de médiateurs pour les aider à surmonter toutes ces épreuves de séparation. Mais voilà, donc c'est une expérience incroyable que cette ouverture du corps, qu'elles sentent, qui est douloureuse. Enfin, il y a la péridurale maintenant depuis longtemps, mais c'est une expérience quand même qui est
certaines femmes disent
douloureuse, violente.
Femmes, oui, mais vous faites bien, c'était l'objet de ma question, de nous rappeler cette brutalité.
Le corps peut se déchirer, le corps s'ouvre, il souffre.
Et en même temps, beaucoup de femmes ont envie de connaître ça et peut-être de le sentir un peu, même si elle demande une péridurale. Il y a quelque chose de tellement énigmatique. Vous confirmez que pour beaucoup de femmes, c'est à la fois craint et désiré.
C'est désiré parce que c'est une épreuve existentielle et que c'est, je veux dire, quand on est une femme, il est toujours important de se dire qu'on ne va pas passer à côté de cette épreuves-là de notre vie qui nous fondent et qui nous constituent, même celles qui n'ont pas d'enfants. Je parle au nom de toutes les femmes.
D'autant qu'on peut s'intéresser à l'accouchement même sans avoir accouché soi-même. Et des hommes eux-mêmes peuvent prendre conscience. Moi, je me souviens du prince Harry, quand Meghan a accouché, il a dit des choses incroyables. Il était clairement un peu sous le choc. Il a dit, mais ce que peut un corps féminin, c'est incroyable. Il a dit ça devant la presse, comme ça. Bon, faut dire qu'ils aiment bien sortir un peu leur intimité. Hein. Mais cette réflexion qu'il a faite, elle peut être faite par n'importe qui, c'est stupéfiant.
C'est tout à fait stupéfiant. Et d'ailleurs, souvent, les hommes sont extrêmement admiratifs de ce qu'ont fait les femmes. Mais c'est aussi parce que les femmes peuvent vivre ça et ont cette expérience-là qu'elles ont été, beaucoup de sociologues, d'anthropologues le disent, ou même de philosophes, qu'elles ont été opprimées et enfermées.
Parce que quoi?
De cette puissance, cette possibilité de mettre au monde, de porter, de mettre
au monde. Qui leur est enviée en quelque sorte.
On dit donner la vie, ce ne sont pas elles qui donnent la vie, mais de porter, d'accompagner la vie de cette manière-là, et de pouvoir aussi l'arrêter.
Oui. Dorothée Legrand, ça vous intéresse, je crois, cette expérience, et aussi vous, Nathalie Deprat. Il y a notamment une autre question qui est, ça se referme pas en 5 minutes, et beaucoup de femmes se sentent un peu mal protégées dans les semaines qui suivent, parce que c'est pas tout à fait refermé, parce que la vie sociale nous habitue à être bien fermée sur nous-mêmes. Il y a comme une absence de protection, là, psychiquement, Dorothée Legrand.
Oui, ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de dire, Hélène de Gainsbourg, parce que sur ce processus de cette traversée, finalement, qui est peut-être jamais complètement terminée, est-ce que l'autre est autre? Est-ce que l'autre est moi? Est-ce que c'est un peu les deux? Est-ce que ça change selon les moments? Vous dites que c'est quelque chose qui s'acquiert, qui est difficile. Et sûrement, on est confronté à ça beaucoup aussi en tant qu'analyste. Ces manières de s'y retrouver retrouver ou pas avec l'autre, avec son parent, avec son enfant. Et justement, cette porosité de la limite qui peut aller jusqu'à la confusion. Mais même quand ça ne va pas jusque-là, il y a des entremêlements. C'est toujours plus compliqué qu'une limite tout à fait claire et distincte entre bah, ça c'est moi et ça c'est l'autre. Et ça n'est jamais remis en question, ça n'est jamais fluide, etc. C'est toujours beaucoup plus compliqué.
Il peut y avoir un flou, hein,
oui,
une hésitation.
Mais même si ça ne s'exprime pas en termes de flou et d'hésitation, c'est en fait des investissements. Comment je vais investir mon propre corps, mon propre psychisme, comment je vais investir l'autre. On peut reprendre cette image de la main touchant, touchée. Mmh. Qu'est-ce que c'est que toucher l'autre? Cette peau, elle est poreuse aussi à la peau de l'autre, et pas de la même manière qu'avec ma propre peau, mais parfois, beaucoup de personnes se disent éponge, par exemple. Je suis une éponge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'absorbe l'angoisse, la tristesse, la joie de l'autre, mais ça veut dire aussi que cette limite entre moi et l'autre, elle est constamment renégociée, et c'est pas forcément un problème. Mais en tout cas, ça veut dire que s'arc-bouter sur une limite qui serait, encore une fois, claire et distincte pour tout le monde, et que chaque franchissement de limite serait pathologique, ce serait un point de départ très compliqué pour rendre compte de notre quotidien, finalement, à chacun. La complexité, elle est celle de, vous le disiez, celle de toute femme avec son enfant, mais celle de toute personne vis-à-vis de l'autre, elle n'est aucunement à pathologiser dans ce sens-là.
Nathalie Deprat.
Oui, merci. Merci beaucoup, Dorothée. Hein. C'était... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que tu as très bien formulé justement les ambiguïtés en fait de ce qui se passe entre moi et l'autre, et dont la grossesse, c'est vrai, est assez emblématique. Je pense qu'on a une sorte de entre guillemets de cas de figure, si je puis dire, enfin qui est une signature de notre humanité. Je dirais même au-delà des femmes, que les femmes portent en premier lieu, bien sûr, mais au-delà des femmes. Et moi, ce qui me semble aussi très étonnant, c'est quand on expérimente justement ce temps de grossesse, c'est les difficultés qu'on a parfois à repérer dans les mouvements du bébé, si c'est mes mouvements ou les mouvements du bébé, enfin à l'intérieur même du corps et du ventre. Donc il y a cette sorte d'hésitation, parfois d'indistinction, qui n'est pas du tout pathologique, de fait, hein, et qui traduit véritablement les relations très fines entre moi et autrui, et cet autrui émergent, je dirais, qui est le bébé. Il y a aussi d'autres expériences qui peuvent être des expériences d'envahissement. Enfin, on peut se sentir dépossédé de soi quand on est enceinte, parce que justement, le bébé prend toute la place. Donc, d'une certaine manière, cette frontière entre moi et lui ou elle, c'est une frontière qui est poreuse. J'aime beaucoup ce terme de porosité, et qui est très ductile aussi, qui ne cesse de bouger. Alors, la peau, bien sûr, reste toujours jusqu'au dernier moment, enfin le liseré en fait entre le bébé et moi. Mais malgré tout, il y a une sorte de l'intérieur. Finalement, on peut se sentir soi-même envahi. Par cette présence qui va devenir de plus en plus imposante d'autrui. Et je voudrais faire le lien aussi, si vous permettez,
vous en prie,
avec une autre expérience d'un corps étranger en soi-même.
Oui.
Et là, qui est partagée finalement par toute l'humanité et qui correspond à l'expérience de la greffe d'un organe dans son propre corps. Alors, ce n'est pas du tout la même expérience, puisque là, on va faire entrer un autre corps, un organe en soi-même, et dans l'idée que ce corps va rester, hein, et qu'il va y avoir un travail d'appropriation de ce corps étranger. Il ne va pas s'agir de le faire sortir, ou alors il y a un rejet de la greffe. Donc ce n'est pas la même expérience, mais il y a aussi un apprentissage justement de l'autre en soi, je dirais, dans l'expérience de quand on reçoit une greffe d'organes. Et c'est une expérience dont a témoigné par exemple Jean-Luc Nancy dans un très beau texte, L'Intrus, où il raconte justement comment il a été greffé du cœur,
oui.
Et comment il a vécu justement ces moments d'étrangeté à l'intérieur de soi, et tu parlais de négociation entre moi et autrui.
Et c'était un organe qui venait d'un porc, hein, c'est ce qu'on fait habituellement, parce que c'est assez compatible en fait.
Oui, absolument.
Et ça pose beaucoup de ça peut être troublant.
C'est très troublant, cette étrangeté à l'intérieur de soi, je trouve. Et en même temps, il y a, voilà, c'est, l'humain a cette capacité absolument incroyable de, bah, de recevoir, oui. d'adapter son corps à de l'autre, jusqu'à le faire sien, d'une certaine façon. Donc c'est un processus assez étonnant.
On va prolonger cette discussion sur le, à la fois sur le corps comme limite, comme frontière, et sur sa porosité, les points de contact, et notamment le problème, parce que c'en est un, surtout en phénoménologie, le problème du corps d'autrui. On n'a pas accès à tout ce qui se passe derrière, mais on a quand même un peu accès, etc. Eh bien, de toute évidence, il faut réécouter un peu Maurice Merleau-Ponty.
Et supposons que je sois en présence de quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est violemment irrité contre moi. Mon interlocuteur se met en colère, et je dis qu'il exprime sa colère par des paroles violentes, des gestes, des cris. Mais où donc est cette colère? On me répondra, elle est dans l'esprit de mon interlocuteur. Ce n'est pas très clair, car enfin, cette méchanceté, cette cruauté que je lis dans les regards de mon adversaire, je ne puis les imaginer séparés de ses gestes, de ses paroles, de son corps. Tout cela ne se passe pas hors du monde et comme dans un sanctuaire reculé, derrière le corps de l'homme en colère. C'est bel et bien ici, dans cette pièce, et en ce lieu de la pièce, que la colère éclate. C'est dans l'espace entre lui et moi qu'elle se déploie. Et si, pour un instant, je quitte mon point de vue d'observateur extérieur sur la colère, si je tente de me rappeler comment elle m'apparaît à moi-même lorsque je suis en colère, je suis obligé d'avouer qu'il n'en va pas autrement. La réflexion sur ma propre colère ne me montre rien qui soit séparable ou qui puisse, pour ainsi dire, être décollé de mon corps.
Merleau-Ponty nous dit ici qu'on a toujours accès à l'autre d'abord par son corps. C'est lui qui nous donne à voir, par exemple, des émotions comme la colère. Et évidemment, et là se produit une sorte de double problème, c'est-à-dire d'un côté je sais bien qu'il y a derrière ce que je vois de lui quelque chose qui ne m'est pas accessible, qui est son intériorité à lui, mais comme quelque chose m'est accessible, que moi aussi j'ai une intériorité et que je donne des choses qui sont accessibles à autrui, je peux par analogie, Husserl je crois parlait d'une saisie analogisante, je peux imaginez ce qu'il y a derrière. Alors là aussi, il faut faire attention parce que ça peut réduire l'altérité. On est au cœur, là, Nathalie Deprat, des grands problèmes de Husserl et de Merleau-Ponty concernant le rapport à autrui.
Tout à fait, tout à fait. C'est cette idée de se transposer en imagination en autrui. Donc d'être capable à un certain niveau, jusqu'à un certain point, et donc c'est toute la question à nouveau des limites hein, qui se posent entre moi et autrui, jusqu'à un certain point, être capable de percevoir, de comprendre, de vivre, d'imaginer justement ce qui se passe en autrui, en l'autre. Et par exemple, c'est vrai que l'exemple des émotions, de la colère et d'autres émotions est particulièrement intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est peut-être plus expressif encore à travers une peur que l'on va ressentir d'une certaine manière dans son corps aussi, un peu par contagion, viscéralement. C'est plus vrai, je dirais, l'expression des émotions que peut-être dans la perception où on a voilà, un regard un peu plus distancié pour la compréhension d'autrui, quand on essaye de comprendre de manière un peu plus les raisonnements. Donc je pense que la colère est une zone beaucoup plus, on parlait de porosité, une zone beaucoup plus poreuse d'interaction avec autrui, où les manifestations corporelles jouent à plein.
Et par analogie, je vois à peu près ce qu'il éprouve. Alors, je voulais vous poser aussi cette question. Husserl, que vous connaissez par cœur, disait que, quand je vois des objets, je vois des corps-objets, quoi, des choses. Et quand je vois autrui, je vois un corps, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière, et c'est pourquoi il est aussi une chair. Il y a cœur-peur, le corps et la chair, Leib. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Parce que ça me paraît extrêmement important pour notre sujet sur l'intériorité.
Oui, c'est vrai que c'est des termes un peu compliqués, ces termes allemands. Mais en même temps, je pense qu'ils ont une fonction pédagogique oui. assez intéressante. Ils décrivent beaucoup mieux, en réalité, à travers la distinction des deux termes, ce qu'en français, on a du mal à rendre. Alors, c'est vrai qu'on a choisi souvent de traduire Leib par chair ou par corps vécu ou corps propre chez Merleau-Ponty pour désigner justement ce qui caractérise la dimension subjective ou la conscience, le fait que le corps soit doté de conscience, qu'il ne soit pas juste une surface inerte, dépourvu finalement de vie intérieure. Et d'une certaine manière, c'est ça en fait, la distinction cœur-peur, corps-objet, Leib, corps-sujet, d'une certaine façon, on peut le dire aussi comme ça, c'est le fait que notre corps, il est porteur de conscience ou de préconscience au moins. Il y a des dimensions qui peuvent émerger de ce que nous vivons du sein de nos sensations. Donc c'est vrai que c'est assez complexe et en même temps assez simple, alors que le corps que Husserl nomme cœur-peur, c'est un corps objectivé, donc ça correspond soit aux surfaces très inertes des corps physiques, des astres, des tables, des objets, mais c'est aussi le corps, le cœur-peur, c'est aussi le corps, par exemple, qui est anesthésié dans une opération chirurgicale. Que par exemple un chirurgien, une chirurgienne ne voit d'autrui souvent. Il a besoin d'ailleurs de mettre à distance la personne d'autrui pour pouvoir opérer, parce qu'autrement, d'une certaine manière, ça crée trop d'interactions qui risquent d'être des interférences au moment où il opère. Donc le corps d'autrui devient objet, s'objective, et sans doute pour le bien du patient ou de la patiente, de façon à recréer des limites et à permettre au chirurgien de faire son travail d'une certaine façon. Donc ça, on parlera de cœur-peur aussi quand on a un corps qui est anesthésié, c'est-à-dire qui est dépourvu de sensations, littéralement.
Et quand on a un corps d'autrui qui fonctionne, avec autrui qui est bien là devant nous, il y a donc quand même pour Husserl, et semble-t-il aussi pour Merleau-Ponty, un lien. C'est-à-dire on n'a pas accès à sa sphère d'appartenance, comme disent les phénoménologues, on n'a pas accès à son intériorité, mais nous sommes liés, appariés. Dit Husserl, nous avons en commun cette chair dont nous savons que chez l'un et l'autre elle débouche sur des choses qui sont ensuite un peu étrangères l'un à l'autre, mais pas complètement étrangères. Il y a du lien, Dorothée Legrand, pour Merleau-Ponty et pour Husserl, entre nous, même s'il y a de l'inaccessible.
Oui, exactement, et je pense que c'est là pour moi une des réjouissances de pouvoir travailler à la fois du côté de la phénoménologie et de la psychanalyse, parce que là, il y a un point de très difficile croisement qui rend l'interaction très très riche entre, comme vous venez de le résumer, le fait qu'il y a un lien, qu'il n'y a pas d'infranchissable du côté de la phénoménologie, qu'on peut toujours imaginer ce qu'il y a derrière, hein, qu'il y a un appariement, qu'il y a de l'analogie, pour les phénoménologues, là où le psychanalyste va assumer l'infranchissable, je dirais, va assumer la limite, travailler avec cette limite-là, non pas pour la franchir, sauter par-dessus, faire comme si elle n'était pas là, mais au contraire, la psychanalyse va travailler avec ce qui justement n'édulcore pas l'infranchissable ou la différence irréductible entre l'un et l'autre, va travailler avec ce qui se donne. Là, si je reformule l'acte de la psychanalyse avec les mots de la phénoménologie, on peut dire que le psychanalyste travaille avec ce qui se donne, comme ça se donne au moment où ça se donne, c'est-à-dire la parole de l'autre, sans annexer cette parole à l'imagination de ce qui pourrait bien y avoir derrière. Donc la parole, elle se donne, c'est au ras de cette parole-là, telle qu'elle se donne, que l'on travaille, sans imagination de plus, de moins, etc.
Alors il y a quand même un philosophe un peu issu de la tradition phénoménologique qui n'est pas du tout d'accord avec cette idée que nous sommes liés par nos corps respectifs l'un et l'autre, que nous sommes pas, il pense, c'est Sartre évidemment, c'est de lui que nous avons parlé, qui pense que c'est une guerre en réalité qui se joue entre autrui et moi, et que mon regard sur autrui le chosifie beaucoup, beaucoup plus que je n'ose l'admettre, et inversement, son regard sur moi me chosifie, et cette idée que nous ayons un lien comme des chairs, des lives, comme nous venons de le dire, avec quand même quelque chose en partage est très problématique pour Sartre. On va lire cet extrait, un extrait de L'être et le néant, ce livre de 1943. C'est Aïda Ndiaye qui lit pour nous.
L'autre, comme regard sur moi, n'est que cela, ma transcendance transcendée. Et sans doute, je suis toujours mes possibilités, mais en même temps, le regard d'autrui me les aliène. Ainsi, dans la brusque secousse qui m'agite lorsque je saisis le regard d'autrui, il y a ceci que, soudain, je vis une aliénation subtile de toutes mes possibilités. En particulier, mon propre regard est dépouillé de sa transcendance, du fait même qu'il est regard regardé. Les gens que je vois, en effet, je les fige en objet. Je suis, par rapport à eux, comme autrui par rapport à moi. En les regardant, je mesure ma puissance. Mais si autrui les voit et me voit, mon regard perd son pouvoir. Être vu me constitue comme un être sans défense, pour une liberté qui n'est pas la mienne. Par le regard d'autrui, je me vis comme figé au milieu du monde, comme en danger, comme irrémédiable. Mon souci constant est donc de contenir autrui dans son objectivité, et mes rapports avec autrui objet sont faits essentiellement de ruses destinées à le faire rester objet. Transcender la transcendance d'autrui, ou au contraire, engloutir en moi cette transcendance sans lui ôter son caractère de transcendance, telles sont les deux attitudes primitives que je prends vis-à-vis d'autrui. Ces deux tentatives sont opposées. Chacune d'elles est la mort de l'autre, c'est-à-dire que l'échec de l'une motive l'adoption de l'autre. Ainsi, n'y a-t-il pas dialectique de mes relations envers autrui, mes cercles.
Alors, c'est un ensemble de petits passages de L'être et le néant de Sartre. Dans cette centaine de pages centrales dans L'être et le néant où il pose cette question du rapport à autrui. Et c'est assez terrible. C'est-à-dire que quand même, il dit que lorsque je le regarde, je le fige en objet, c'est ainsi. Je mesure ma puissance. Inversement, quand il me regarde, il me défait. Il défait cette puissance. Je deviens un être sans défense, figé par autrui, par le regard d'autrui au milieu du monde. Et donc, finalement, le rapport à autrui, c'est toujours masochiste, dit-il, ou sadique, mais c'est une manière très sartrienne d'utiliser ces mots. Soit je le contiens, je le regarde et c'est moi qui ai le pouvoir, soit c'est lui qui me regarde et je suis un peu envahie. C'est quand même terrible et en même temps, n'est-ce pas lucide, Nathalie Duprat ?
Moi, je trouve que c'est une description assez réaliste de beaucoup de nos interactions avec autrui. En réalité, d'une certaine façon, ce qui est toujours frappant chez Sartre, c'est qu'il finalement il universalise une relation à l'autre qui correspond à des situations réelles mais partielles.
Oui.
Et c'est ce que font beaucoup de philosophes d'ailleurs. En réalité, ils ont une façon d'absolutiser le lien avec aussi autrui en considérant que c'est comme ça que ça se passe, mais en fin de compte, ça correspond à certaines situations. Et là, on peut reconnaître que Sartre décrit très bien certaines situations où je vais avoir peur d'être envahi par l'autre. Donc, du coup, je vais me protéger, je vais le contenir, je vais user de ruses, etc. Donc, on peut être d'accord d'une certaine manière avec cette manière de décrire. Sauf que d'une certaine façon, c'est aussi passer à la trappe toute une série d'autres situations.
De partage.
De partage, où nous ne sommes pas du tout en danger vis-à-vis d'autrui, pas nécessairement. Où on est dans une relation de confiance, une relation de convivialité, de lien, d'alliance, etc. Donc du coup, on peut dire que c'est intéressant comme description, mais ça reste très partiel. Mais ça traduit quand même peut-être, au fond, un besoin peut-être une angoisse chez Sartre, en réalité.
Oui.
Une angoisse d'être envahi. Ce qui peut correspondre à des situations dont il ne parle pas directement, mais que connaissent bien beaucoup de femmes, en fait, des expériences de viol, enfin, où on est vraiment complètement envahi par l'autre et on subit, en fait, la situation. Donc, même si Sartre ne décrit pas directement ces situations, elles sont plus décrites par Simone de Beauvoir, hein, dans Le Deuxième Sexe,
oui.
Mais d'une certaine manière, tout en décrivant des situations différentes, ils se rejoignent, en réalité, dans cette angoisse de l'envahissement.
Alors, cette angoisse de l'envahissement, je suis très contente que vous le nommiez comme ça, parce que même face aux objets, il y a chez Sartre une angoisse de l'invasion, quoi. Et au fond, qu'est-ce que c'est la nausée ? Dans son livre de 1938, c'est le fait de constater cette existence qui me, je cite, qui me pénètre de partout, l'existence des choses me pénètre de partout, par les yeux, par le nez, par la bouche, je cite encore, et tout d'un coup, et c'est la nausée, c'est le vomissement, donc c'est quand même du dedans qui sort dehors, tout d'un coup, d'un seul coup, le voile se déchire, j'ai compris, j'ai vu. Mais il y a une angoisse chez Sartre incroyable, du dedans, dehors, c'est une vraie préoccupation chez lui, Dorothée Legrand.
Oui, c'est une vraie préoccupation. Loin de moi l'envie de dresser le tableau clinique de Sartre. Mais pour aller tout à fait dans le sens de Nathalie, dans ce montage là que vous avez fait de phrases de L'Être et le Néant, c'est très très frappant. Il dit « Je les fige en objet, en les regardant, je mesure ma puissance ». De qui parle-t-il ? Quel est ce « je » ? Je mesure ma puissance. Bon, il a cette phrase très très puissante, ma transcendance transcendée, l'autre, et comme regard sur moi n'est que cela, ma transcendance transcendée. Ça veut dire quand même qu'il y a cette complexité, ma transcendance transcendée, il garde cette transcendance peut-être, il n'est pas complètement figé comme objet, mais surtout, moi ce que ça m'évoque, c'est que son point de départ, le point de départ de sa pensée, voire de son existence, dirait-il, c'est sa transcendance.
À lui. Et la peur d'être transcendé par l'autre.
Et la peur d'être transcendé et que du coup, que la transcendance de l'autre vienne mettre à néant sa propre transcendance. Moi, j'aimerais bien le faire dialoguer ici avec Emmanuel Lévinas, un autre grand penseur du corps, à mon avis, qui va justement accueillir l'autre, la transcendance de l'autre, non pas comme une désubjectivation, mais comme justement une subjectivation, parce que j'en suis responsable. Mais c'est aussi un corps à corps.
Ça vous intéresse, Hélène de Gainsbourg, ce philosophe qui a finalement beaucoup de mal à penser autrui comme autre chose qu'un ennemi. Il faut faire attention à l'invasion qu'il pourrait représenter pour ma sphère d'appartenance, pour parler comme Husserl.
Ça m'intéresse énormément. D'autant plus que je pense que pendant, effectivement, les femmes enceintes,
oui,
et peut-être même au moment où elles mettent au monde un enfant, ressentent absolument cette peur de l'envahissement. Vous avez parlé de la nausée sartrienne. Oui. Vous savez que les femmes enceintes, pas toutes, mais pour beaucoup, ressentent des symptômes de nausée, qu'on met souvent sur le compte des hormones.
Oui.
Le placenta n'est pas encore vraiment constitutif, donc ce sont les hormones féminines de la femme qui agissent. Mais c'est aussi une expérience psychique et philosophique, cette nausée. D'ailleurs, il y en a qui ne s'en remettent pas bien. Et c'est vrai que Sartre le décrit très très bien. Enfin, il ne parle pas du tout des femmes enceintes. Ça
il parle de la
pas
peur d'être envahi par des objets,
oui,
qui sont terriblement existants.
C'est-à-dire qu'il y a des objets, des racines, des objets familiers ou de la nature qui... Il n'y a plus de limite, effectivement, à ce moment-là, oui, dans ce personnage de Roquentin. Et où il se sent envahi par tous ces objets. Enfin, c'est un peu une expérience de la folie, on va dire, où il n'y a plus vraiment de limite. Mais c'est aussi l'expérience des femmes. Elles le racontent et elles en ont des symptômes avec la nausée, précisément la nausée, de dégoût d'odeur, de dégoût de couleur, de dégoût de bruit, de peur d'être agressée, d'être envahie. Et elles ont aussi cette peur d'être envahies par cette chose, on va dire cette chose pour l'instant, qui n'est pas encore vraiment un fœtus dans les premiers temps. Elles ne sentent pas bouger. Elles savent, il y a l'échographie, tout ce que vous voulez maintenant. Elles savent qu'il y a un bébé, mais ce n'est pas du tout un bébé au début.
Enfin, alors, c'est assez audacieux d'aller analyser les nausées de la grossesse avec Sartre et,
oui,
et la nausée.
C'est très, très. C'est, quand vous lisez la nausée, oui, en plus, il y a un passage dans la nausée que j'ai beaucoup étudié pour justement à ce propos, où il imagine une sorte de morceau de viande palpitant qui lui revient dans la figure. Et j'ai vraiment pensé au placenta en lisant ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie Defrage? Je pense que ce sera un peu la fin, la leçon.
Je suis passionnée par votre relecture de Sartre à la lumière de l'expérience de la grossesse. Je pense qu'il y a une vraie ambivalence, effectivement, dans l'expérience que vit une femme enceinte. Et c'est vrai qu'on. Et je pense que c'est différent de grossesse en grossesse si on a connu plusieurs grossesses. Moi, c'est mon cas. Et je ne les ai pas vécues du tout de la même manière. Enfin, cette ambivalence, je ne l'ai pas du tout vécue de la même manière. Pour le premier enfant que j'ai eu, c'est vrai que j'avais l'impression qu'il n'y avait personne. Enfin, que pas d'existence jusqu'au moment où, de la naissance, où là, tout d'un coup, j'ai découvert quelqu'un. Alors que dans les grossesses suivantes, d'une certaine manière, il y a eu toute une acclimatation, des relations, quelque chose, des circulations, des signaux. Et la présence de l'enfant était beaucoup plus authentique, enfin, d'une certaine façon. Mais du coup, c'est vrai que cette ambivalence, elle est quand même constitutive, je pense, de la relation qu'on a quand on a un enfant dans le ventre. Enfin, je pense qu'effectivement, c'est très, très ambivalent.
En tout cas, pour finir cette émission, je vais vous proposer une chanson qui va peut-être vous surprendre, mais en vérité, elle est exactement dans notre sujet, puisqu'elle pose cette question de ce qu'il y a dans autrui, dans sa tête, dans cette sphère à laquelle je n'ai pas accès, au moment même où je suis dans un rapport charnel très fort à lui. Il y a quelque chose qui m'échappe et c'est peut-être insoutenable.
Derrière l'amour, il y a toute une chaîne de pourquoi. Question que l'on se pose, il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets et des rancœurs, des souvenirs éblouissants et des visions de néant. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi plus fort. Empêche-moi de me détruire. Derrière ton amour, qu'est-ce qu'il y a? Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis.
C'était Johnny Hallyday, Derrière l'amour, une chanson de 1976, écrite par Pierre Delanoë, et c'est tout à fait frappant, cette façon qu'il a de dire que derrière ce rideau noir, tu m'interdis d'aller voir. Il me semble que c'est un problème que nous avons traité, et peut-être qu'on ne s'attendait pas à voir Johnny à la fin, mais
finalement, pourquoi pas. Je vous remercie beaucoup, toutes les trois. Vous avez éclairé magnifiquement ce sujet. Le corps est-il la frontière entre le dedans et le dehors? Hélène de Gainsbourg, Dorothée Legrand, Nathalie Deprat. On peut retrouver les références de vos ouvrages sur le site d'Avec Philosophie. Et maintenant, c'est l'heure de la chronique de Frédéric Worms. Voici le pourquoi du comment.
Comment éviter la montée aux extrêmes? Lorsqu'il y a un conflit, et d'abord par exemple dans une simple discussion entre des êtres humains, nous savons bien que potentiellement il y a toujours le risque d'un passage à l'extrême. Qu'entendons-nous par l'extrême? L'extrême, c'est toujours la limite, c'est le terminus, c'est ce au-delà du quoi il n'y a rien, c'est l'ultime en quelque sorte. Mais l'extrême entre les êtres humains, comme il y a aussi dans la politique, l'extrême droite et l'extrême gauche, l'extrême c'est toujours, et que d'ailleurs je ne s'y maîtrise pas aussitôt de manière simple, hein, mais simplement dans nos représentations, eh bien l'extrême, c'est toujours en effet le moment où la dispute, le conflit, conduit à une violence qui vise à détruire l'adversaire, à détruire celui qui s'oppose à nous. L'extrême a ici un sens très précis, au-delà duquel d'ailleurs, il y a encore les ultras comme s'ils étaient encore par-delà l'extrême. Et on appelle ultra dans tous les domaines, que ce soit dans les supporters de foot ou dans la politique, celui qui est prêt à prendre les armes. Ainsi, l'extrême, c'est toujours le risque de la façon dont une discussion qui peut être modérée, qui est nécessaire entre des êtres différents et qui ont des conflits, qu'elle dégénère en guerre, qu'elle dégénère en crime de l'un contre l'autre. L'extrême comporte toujours cette potentialité. Nous avons spontanément l'idée que l'extrême est un risque qu'on peut toujours éviter, et donc quelque chose qui est conjuré simplement par des actes ordinaires. Ce que nous montrent certains philosophes, et en particulier René Girard, dans un dialogue important intitulé « Achever Clausewitz » et dans toute sa philosophie de l'imitation entre les hommes, de la rivalité mimétique, c'est au contraire que les extrêmes symétriques et qui se miment les uns les autres, sont le risque premier de toutes relations humaines. Il montre que dans la guerre, par exemple, la montée aux extrêmes, aux crimes les pires, est toujours la logique première et pas seconde, celle qui vient d'ailleurs de cette imitation de la cruauté de l'autre. Ça se nourrit sans fin, parce que les uns font tel zag, je vais faire pire, et ainsi de suite. La montée aux extrêmes, et au pluriel, est donc le risque premier de toutes relations humaines. Il ne faut pas la considérer comme une dérive superficielle, secondaire, évitable, facultative, qui se tiendrait à la méchanceté psychologique de l'un et non pas de l'autre. Il faut la considérer comme le risque structurel au cœur des relations humaines. Et nous le voyons bien dans l'idée de guerre totale, dans l'idée que la résistance de l'un suscite la fureur de l'autre. Ainsi, par exemple, en Ukraine, nous voyons que bien loin de se calmer par la résistance qui lui est opposée, la Russie monte en effet à des extrémités terribles, en évitant peut-être cette extrémité interdite par la dissuasion, qui est de l'ordre du nucléaire. Comment éviter la montée aux extrêmes? Peut-être justement par des limites claires, infranchissables, par des institutions, par la prise de conscience et par la justice.
Merci Frédéric Worms. On peut retrouver votre chronique en podcast sur le site de Radio France, dans les programmes de France Culture, et il en va de même pour toutes les émissions d'Avec Philosophie. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Étienne Rouche. Elle a été préparée avec Chaïma Giboire en particulier et puis toute l'équipe d'Avec Philosophie, Manon Delasselle, Jules Barbier, Carla Michel et Aïda Ndiaye. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.